parce qu'en fait, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, c'est-à-dire à lui ressembler. Parce qu'en général, des enfants ressemblent à leurs parents. Donc en fait, il aimerait qu'on retrouve cette nature qu'on avait auprès de lui, qui est sainte et irrépréhensible. Le problème, c'est qu'en ayant été séparés de Dieu, le péché est entré dans nos vies. Et le péché nous a non seulement séparés de Dieu, mais a changé notre nature. Et le péché, il nous condamne, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, il nous maintient en esclavage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces passages de Paul où il dit « Mais je fais le bien, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire et le mal que je n'aimerais pas faire, je le fais. » Ça, c'est la force du péché dans nos vies, qui finalement, on part avec un bon sentiment, mais finalement, les résultats ne sont pas tout à fait ce qu'on attend. Le péché nous empêche de connaître Dieu parce que Dieu est saint et Dieu. Souvent, le péché nous coupe des autres parce qu'à cause de ce qu'on fait, on abîme les relations qu'on peut avoir aussi avec ceux qui nous entourent. Le péché a endurci nos cœurs, nous rendant souvent incapables d'aimer et d'obéir à Dieu. Et en fait, le péché fait de nous des sources de corruption et de mort. Donc, Dieu, pour pouvoir venir à notre secours, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix à notre place et pour qu'il prenne sur nous cette condamnation qui était la nôtre. Donc, par le sacrifice de Jésus, notre condamnation est effacée. Ça veut dire que Dieu, quand il nous voit, il n'est plus en colère contre nous, en colère contre le péché qui est en nous, parce qu'il nous voit à travers le sacrifice de son Fils. Les principautés et les dominations auxquelles nous nous étions soumises dans notre rébellion sont vaincues. Ça veut dire que ce qui nous maintenait en esclavage puis nous empêchait d'entrer dans quelque chose de nouveau à cause du sacrifice de Jésus sur la croix, ces dominations, elles ont été vaincues. Ça, c'est un fait, ça vient de ce que lui a accompli pour nous. Et le but de tout ça, c'est de nous aider à revenir à la vie pour entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et la relation avec Dieu est rétablie. Donc on peut retrouver notre relation avec le Père et nous revenons à la vie avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Ça veut dire que Christ a ouvert ce chemin pour qu'on puisse revenir vers Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Seulement, le problème, c'est qu'à l'ascension, Christ, il est parti rejoindre son Père. Et en fait, il fallait qu'il envoie quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'il promet aux disciples en leur disant « Mais je vous enverrai un consolateur, vous n'allez pas rester orphelin, je vais vous envoyer quelqu'un, quelqu'un qui est en même temps, qui sera en même temps avec vous, mais qui en même temps est avec le Père et moi dans le ciel, donc qui va pouvoir faire cette connexion entre nous et lui. » Et non seulement le Saint-Esprit rétablit cette connexion avec le Père, mais c'est lui qui va pouvoir venir dans vos vies, vous aider à redevenir vraiment des enfants et à manifester la même nature que votre Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Pentecôte. Ça, c'est quand même fabuleux. C'est qu'on n'est pas seulement réconcilié avec Dieu, mais on peut vraiment le connaître. On peut retrouver cette relation, cette intimité avec lui. Et puis surtout, tout ce qui, dans nos vies, n'est pas très joli et a besoin d'être transformé, avec le Saint-Esprit, on a cette puissance qui vient à notre secours pour pouvoir retrouver cette nature d'enfant de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En fait, les disciples, ils ne pouvaient pas vraiment connaître Jésus. Il faut savoir que quand Jésus était avec les disciples, il avait été dépouillé de sa gloire, la gloire qu'il avait auprès de Dieu, c'est ce que dit la parole. Il était là sous une forme humaine, et puis quand il est revenu vers son Père, il a retrouvé cette gloire qu'il avait au ciel, même une gloire plus grande, puisqu'il s'est assis à côté de Dieu, et que le fait d'avoir vécu avec lui pendant 3 ans, ça ne permettait pas aux disciples vraiment de connaître le Père dans toute sa grandeur, de connaître Jésus dans toute sa gloire, ni de comprendre toute l'œuvre de rédemption qu'il était en train de faire. Et Jésus leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. J'ai mis cette image parce que bon, c'est une représentation, mais est-ce que nous, on arrive à s'imaginer seulement la gloire de Jésus en ce moment? La gloire qu'il a dans le ciel avec les 24 anciens qui se prosternent, la gloire de sa majesté. Je veux dire, il y a quelques passages dans la Bible où par l'esprit, des gens ont eu des visions du trône et de la gloire de Jésus, mais c'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose de tellement, tellement glorieux, tellement au-delà de tout ce que nous on peut imaginer, qu'en fait, simplement pour qu'il nous dévoile certains aspects de qui il est, on a besoin désespérément du Saint-Esprit. Toutes nos représentations de Jésus, elles sont minuscules par rapport à sa gloire et par rapport à qui il est. Et je vous lis juste ce texte parce que je le trouve magnifique. C'est juste un exemple parmi d'autres, mais en fait, dans la Bible, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des théophanies, c'est-à-dire des textes où il y a une révélation de la gloire de Dieu ou de Jésus, notamment dans l'Apocalypse. Et donc là, Jean, c'est par l'Esprit qu'il a pu voir une partie de ce qui se passe dans le ciel. Et là, il parle de Jésus. Et il dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus du fin lin blanc. Pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est de Jésus dont il parle. C'est lui qui est la parole de Dieu, c'est lui qui est ce Roi des rois et ce Seigneur des seigneurs. Pour être des témoins de Jésus, il faut absolument pouvoir le connaître. Et pas seulement à travers des choses écrites, comme si on lisait un magazine et on entend parler de la vie, des people, tout ça. On a vraiment besoin d'une relation personnelle avec lui, on a besoin qu'il puisse se révéler à nous. C'est pourquoi Paul adresse cette prière à Dieu pour les Éphésiens, qui est une prière qui doit être aussi la nôtre pour nous et pour tout le corps de Christ. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force? Donc on voit qu'il y a trois versets différents. Le premier qui parle de cet esprit de sagesse et de révélation qui nous permet de connaître Dieu. Le verset 18 qui parle de connaître l'espérance aussi qui s'attache à notre appel. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quel va être notre héritage après? Et puis, quelle est la puissance qu'il met en action pour qu'on puisse entrer dans toutes ces choses? Et ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de connaître Jésus, qui nous permet de réaliser vraiment personnellement pour nous toutes les dimensions de son œuvre et de son amour pour nous. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous permet de connaître le Père dans une relation intime. Et c'est le Saint-Esprit toujours qui nous permet de saisir ce qu'il nous demande de faire et ce qu'il nous réserve. Et pour finir, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre que la puissance de Dieu pour nous sauver et nous restaurer, elle est immense. elle est vraiment pour nous. D'ailleurs, le verset suivant dit « Cette puissance, Dieu l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Quand on se laisse conduire par l'Esprit Saint, cette puissance de vie et de résurrection, elle nous est donnée par lui, pour qu'on puisse vraiment sortir de cet esclavage du péché, pour qu'on puisse changer, et pour qu'on devienne vraiment des enfants de Dieu. Romains 8, versets 13-15, Paul nous dit « Si vous vivez dans la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est vraiment ça l'œuvre de l'Esprit. C'est de nous permettre de vraiment vivre cette adoption par le Père et nous permettre de retrouver cette nature de fils et de fille. En fait, tout le reste de ce chapitre 8 des Romains est absolument magnifique d'ailleurs. Si je vous encourage à le méditer si vous avez envie d'aller plus loin. Mais en fait, ce chapitre 8 parle après de la création. Elle dit qu'en fait, la création, elle est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement en attendant la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et qu'elle soupire après ce désir. Ça veut dire qu'en fait, la création qui est autour de nous, chaque fois que nous, on se laisse transformer par Dieu, chaque fois qu'on le laisse nous permettre d'entrer dans cette nouvelle nature, quelque part, c'est comme si on devient témoin pour la création de sa puissance de restauration et de résurrection. La création, elle doit attendre la fin. Elle doit attendre le retour de Jésus pour être restaurée complètement à ce à quoi elle était destinée. Mais nous, on a cette possibilité de vivre cette restauration maintenant. Et quand on se laisse transformer par Dieu, on devient l'espérance de la création autour de nous, on devient l'espérance des autres, on devient l'espérance même de la nature qui nous entoure, parce qu'on retrouve vraiment les valeurs de Dieu et la nature de Dieu. Et puis après, ce chapitre de Romains 8 continue avec l'Esprit, en disant que l'Esprit lui-même, il intercède en notre faveur. Donc on sait que Jésus est déjà devant le Père en train d'intercéder pour nous, mais l'Esprit aussi, il intercède pour que nous, on puisse entrer là-dedans. Et notamment quand on prie en langue, alors ça me paraît, pour certains ça paraît un peu étrange, mais en fait quand on prie en langue, c'est l'Esprit qui prie à travers nous. Nous on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, mais il est en train de prier, parce qu'en fait il sait même mieux que nous parfois ce dont on a besoin pour pouvoir entrer vraiment dans cette nature de Dieu. Et ce chapitre 8 de Romains finit par cette fameuse phrase qu'on utilise pour beaucoup de choses, que Dieu fait coopérer toutes choses pour notre bien. Alors c'est vrai qu'on a tendance parfois à utiliser cette phrase pour dire bénédiction, enfin. Mais en fait, quand il dit qu'il fait coopérer toutes choses pour notre bien, ça va dans la suite de ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire qu'il a un tel désir que nous, on puisse retrouver cette relation et cette nature. Qu'en fait, il va utiliser toutes nos circonstances, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins faciles à traverser, pour nous aider, en fait, voilà, à grandir dans cette relation et à nous approcher de lui. Et le but, en fait, c'est de nous rendre semblables à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors, pour mieux comprendre comment devenir ces témoins vivants, j'aimerais juste revenir au cadre de la Pentecôte, donc de la fête qu'on célèbre aujourd'hui, parce qu'elle venait dans la continuité de quelque chose d'autre et de ce que Dieu vivait avec son peuple, Israël. Donc, pour la comprendre, on a besoin de comprendre dans quel cadre cette fête a eu lieu. Donc, pour permettre à son peuple, Israël, de comprendre ce qu'il attendait de ceux qui lui appartiennent, Dieu a fait une première alliance. Dans cette première alliance, Dieu a donné la loi à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Il a également institué une fête qui est la fête de la Pentecôte, en fait, qui s'appelle fête de la Pentecôte, pour célébrer ce don de la loi. Le problème de la loi, ce n'était pas la loi en elle-même, parce que même Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais qu'il était venu pour l'accomplir. Donc la loi en elle-même, c'était quelque chose de bon. Le problème, c'est que les Israélites, comme nous d'ailleurs, étaient incapables d'accomplir cette loi, et finalement de s'y soumettre et d'y obéir de manière volontaire et de manière parfaite. Donc en fait, à cause de ça, Dieu leur a promis une nouvelle alliance. C'est un texte que vous trouvez dans Hébreux 8. « Or voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai aussi dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Et encore ce texte dans Ézéchiel qui va dans le même sens. Dieu a promis à son peuple « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » En fait, Jésus, il est venu établir cette nouvelle alliance avec son peuple. Nous, on a parfois tendance à croire que c'est nous qui avons inventé la religion chrétienne, mais la nouvelle alliance, elle a été faite d'abord avec les Juifs, et c'était eux les premiers croyants. Et quand Jésus a laissé ses disciples à Jérusalem et qu'il leur a promis ce Saint-Esprit, c'était cette promesse qu'il leur promettait. Ce Saint-Esprit qui allait venir pour leur permettre d'avoir la loi gravée dans leur cœur et pour pouvoir vraiment être le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Et nous, en fait, on a été au bénéfice de cette nouvelle alliance quand les non-juifs se sont greffés sur l'alliance qui avait été faite avec Israël. Donc ça, c'est le récit de la Pentecôte. Donc quand le jour de la Pentecôte arriva, ce jour-là, les Juifs, ils étaient à Jérusalem pour célébrer le don de la loi. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc Dieu a choisi le jour de la fête de la loi pour déverser son esprit et rendre son peuple capable d'observer la loi. Maintenant, une chose qui est importante pour nous, c'est de voir aussi dans cette nouvelle alliance que Jésus a apportée, quelle est la loi qui est la plus importante pour lui. En fait, cette loi, elle se trouve dans Jean 15. Et elle se trouve située entre deux passages différents. Elle se trouve située entre le passage où Jésus dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments et qu'en dehors de lui, on peut pas porter de fruits. Et le passage qui dit que quand il nous donnera l'Esprit Saint, c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. J'ai trouvé intéressant de mettre le contexte de cette loi parce qu'en fait, je ne crois pas que ce soit un hasard que la loi se situe entre ces deux choses, parce qu'en fait le seul moyen que nous on a d'accomplir cette loi, c'est vraiment de demeurer en Jésus et d'accueillir le Saint-Esprit dans nos vies. Et cette loi, c'est la suivante. Jésus dit: je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. En fait, plus que n'importe quoi, c'est ça que le Saint-Esprit veut faire. C'est venir nous rendre capables d'aimer. Parce que la nature première de Dieu, c'est d'être amour. C'est pas marqué dans la Bible que Dieu aime, c'est marqué que Dieu est amour. C'est son identité. Pardon. Des fois, je clique pas toujours au bon endroit. Et nous, on a besoin vraiment de venir à Dieu avec ce désir profond qui vienne rendre nos cœurs capables d'aimer de nouveau. Si on n'a pas ce désir vraiment de connaître le Père et de l'aimer par la prière et la parole avec l'aide de l'Esprit, si on n'a pas ce désir de laisser Jésus venir purifier nos cœurs et de laisser le Saint-Esprit nous transformer, parce que nous réalisons combien nos cœurs sont durs, on ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas s'aimer même soi-même, parce qu'en fait, on ne se connaît pas vraiment, et puis on ne peut pas aimer les autres autour de nous. Et le seul critère pour savoir est-ce que vraiment j'accomplis la loi de Jésus, c'est de se demander est-ce qu'on aime vraiment ? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu ? Est-ce qu'on aime vraiment ceux qui sont autour de nous ? Est-ce qu'on s'aime soi-même ? Parce que des fois, c'est aussi quelque chose de compliqué. Et si ce n'est pas le cas, on a besoin du Seigneur. Et je crois qu'on a tous besoin du Seigneur. Je voulais vous raconter quelque chose que j'ai vécu avec Dieu. Parce que il y a des choses qu'on sait avec notre intelligence, et parfois justement dans des temps de louange ou des temps de prière avec le Seigneur, tout d'un coup le Saint-Esprit vient nous révéler quelque chose, et puis c'est comme si la pièce descendait d'un étage, et que quelque chose qu'on savait devient tout d'un coup quelque chose qui devient très 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 personnel pour nous. Donc, j'aimerais vous raconter quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. En fait, j'étais dans un week-end de séminaire, et il y avait un temps de louange qui était assez, assez important. Et tout d'un coup, pendant que j'étais en train de louer le Seigneur, j'ai eu une vision. En fait, j'ai vu mon propre cœur, et sur ce très joli cœur, il y avait un sceau en forme de couronne, et sur cette couronne, c'était marqué « Propriété du roi ». J'ai trouvé ça très joli. Et puis, mon cœur s'est transformé, et en fait, j'ai vu un parchemin. J'ai essayé modestement de le dessiner, mais ça ressemblait à quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais une partie de ce parchemin qui était ouvert, puis je voyais une partie qui était fermée, mais en fait, ce qui maintenait le parchemin fermé, c'était comme des sceaux qui étaient mis entre les différentes couches du parchemin, c'est les petits machins rouges que vous voyez là, et qui faisaient en fait qu'il n'y avait qu'une partie de ce parchemin qui était ouvert. Et en fait, le Seigneur m'a montré que ce cœur, que ce parchemin, c'était mon cœur, et que finalement, la partie qui était ouverte, c'était la partie où que je lui avais laissé visiter et que je l'avais laissé transformer. Puis qu'en fait, toute la partie qui était encore fermée, c'était une partie qui était fermée pour différentes raisons. Et j'étais très étonnée parce que j'ai vraiment entendu Jésus qui me disait « Mais est-ce que je peux visiter le reste ?» Oui, j'étais là parce que ça me semblait évident, mais en fait, j'ai réalisé que non, c'était pas si évident que ça. Que même si je pensais qu'il avait eu le droit de tout visiter, il y avait encore des parties que je gardais fermées à son amour. Et il m'a expliqué, en fait, il m'a dit, mais les sceaux qui te retiennent sont tous les vœux, tous les non-pardons, toutes les blessures que tu as vécues jusque-là et que je n'ai pas pu venir vraiment guérir profondément. Tous ces endroits-là sont des endroits qui sont fermés à l'intérieur de toi, mais que moi j'aimerais visiter. Et en fait, on a plein de ces endroits à l'intérieur de nous. Si on est vraiment honnête, et si on accepte vraiment de venir avec notre cœur devant le Seigneur pour lui dire « Mais montre-moi si je garde un peu pour moi. On a tous des choses qui nous retiennent. On a tendance à garder une petite partie pour nous. On dit, bon, ben, voilà, je te donne du temps, je te donne déjà ça, mais bon, si je peux garder un peu, c'est pas mal non plus, quoi. Il y a des endroits où on est sûr qu'on n'a pas besoin de changer, mais en fait, si on laisse le Seigneur venir un peu plus profondément, on pourrait changer d'avis. Il y a des blessures qui sont là à l'intérieur de nous. Certaines, on ne les voit même plus parce qu'en fait, on a mis tellement de couvercles dessus pour réussir à vivre avec la souffrance qui était là au moment où on a été blessé, que parfois, on n'est même pas en contact avec certaines blessures profondes. Le problème, c'est que ces blessures à l'intérieur de nous, elles produisent un tas de choses. Elles produisent de l'amertume, elles produisent de la propre justice. Enfin. Et toutes ces choses, on n'est même pas conscient que c'est à l'intérieur de nous, mais quand même, c'est des choses qui sortent dans les relations avec les autres. Si on a été blessé dans certaines circonstances et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a le malheur de nous rappeler un tout petit peu ce qu'on a vécu dans une circonstance précédente où on n'a pas été guéri, en général, c'est sur cette personne que va se déverser notre amertume ou nos craintes ou tout ce qui est relié à une relation passée. Il y a aussi des cachets du genre « j'ai trop honte, je suis indigne » ou alors des vœux. Parfois, ben justement, quand on a été blessé par certaines personnes, il y a des endroits où on a juste tiré le rideau puis on a dit bon, je serai plus jamais blessé de cette manière-là. Donc, voilà. Et parfois, il y a aussi des mensonges sur Dieu. En fait, on est tellement loin, justement, de le connaître que ben, Dieu, on l'appelle Père. Donc, si jamais on a vécu avec notre Père des choses qui étaient compliquées, il y a toujours une espèce de parallèle dans notre esprit qui se fait entre comment il pourrait réagir. Est-ce que nous, on a vécu avec notre propre père ou d'autres personnes qui ont été en autorité dans nos vies? Et tout ça, en fait, ça empêche Dieu de venir dire « Mais non, je veux te montrer qui je suis. Et ce qui ne va pas dans ta vie, je peux faire quelque chose avec. » Et c'est là que Jésus dit « Mais il y a quelque chose que tu peux vivre. S'il y a des endroits où tu n'as pas encore pardonné, c'est le moment de lâcher ta colère. Parce que moi, j'ai payé. Moi, je me suis mort sur une croix pour ça. Et si tu n'y arrives pas, mais que tu veux pardonner, avec la force de mon esprit, c'est possible. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu avec mon père, notamment. Là, on ne voit peut-être pas très bien. Mais c'est marqué là-dessus, là où est ton trésor, là est ton cœur. Donc, parfois, il y a des endroits dans notre cœur où on se sent seul, on se sent abandonné, même si on connaît Dieu, même si il y a tout d'un coup des situations où on a l'impression que voilà, tout est incontrôlable. Mais c'est des endroits où le Seigneur veut rentrer et dire mais je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Les endroits où il y a des mensonges, c'est des endroits où le Seigneur veut venir avec sa vérité. Et puis les endroits qui sont encore blessés et qui ont besoin. Mais le Seigneur est mort sur la croix pour qu'on soit guéri. Et là aussi, le Saint-Esprit veut venir nous permettre de vivre en fait cette guérison, que ce soit quelque chose d'actif dans nos vies. Mais la question de Jésus, c'est toujours ça. Est-ce que je peux entrer par toutes les portes de ton cœur pour venir demeurer en moi par mon esprit? Est-ce que je suis digne? Et en fait, ce que le Seigneur m'a dit après m'avoir montré ce parchemin, c'est qu'il m'a dit que si je le laissais faire, en fait, il ferait de moi une lettre d'amour pour ce monde. Parce qu'en fait, chaque endroit où je le laissais pénétrer, où j'étais d'accord de dire, bon ben voilà, j'ai vu que là, il y avait quelque chose où je ne t'ai pas laissé prendre, je te demande pardon pour ça, et puis je te demande vraiment par ta grâce de venir rentrer, de venir changer mon cœur à cet endroit-là. Ben, c'est vrai qu'au moment où on ouvre, il y a pas mal de cochonneries qui sortent, hein. C'est comme quand on déplace un meuble, il y a de la poussière, mais le Seigneur s'en occupe, ce n'est pas un problème. Il a donné son esprit pour qu'on soit purifié. Mais à ce moment-là, il réécrit quelque chose à la place. Là où on avait des mauvais souvenirs, là où il y avait des mensonges, là où il y a des choses qui étaient fausses à l'intérieur de nous, Dieu vient remettre sa vérité. Il revient remettre son amour. Il vient remettre ce qui lui appartient. Et tout d'un coup, notre cœur devient différent. Il devient capable d'aimer Dieu. Il devient capable de nous aimer nous-mêmes, d'aimer les autres qui sont autour de nous. Il y a vraiment une transformation qui se fait à l'intérieur de nous. Et ça, c'est fabuleux. C'est vrai que quand le Seigneur vient avec son esprit nous montrer des choses qui ne sont pas très belles, sur le moment, voilà, on est un peu désespéré de nous-mêmes. Mais quand il a pu faire cette transformation, puis qu'on voit qu'il y a vraiment des endroits où dans nos vies, avant, on réagissait d'une manière qui n'était pas juste, puis là, on peut entrer dans quelque chose de différent, mais c'est fabuleux. Je n'ai pas d'autres mots. Et c'était drôle parce qu'en fait, Un tout petit peu plus tard, je lisais ma Bible et je suis tombée sur un passage, en fait, où Dieu parlait d'une lettre de Christ écrite dans nos cœurs. Alors, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il m'a montré. Mais en fait, c'est aussi écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 2. Peut-être que vous arrivez, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire. Enfin, dans ce passage, il dit, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas glorieux ? C'est le secret. Laissez le Saint-Esprit nous révéler le Seigneur pour pouvoir être transformés à son image. 2 Corinthiens 3 dit « Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. En devenant cette lettre d'amour, vous devenez des témoins vivants, vous devenez des preuves vivantes de l'amour du Père pour ce monde, de son désir de le sauver, de sa capacité à le restaurer. Vous devenez des preuves vivantes aussi de la victoire de Jésus sur la puissance du péché et de la mort. Et pour finir, vous devenez des témoins vivants de la puissance de résurrection de l'Esprit-Saint. »